Toujours sur Fréquence Paris-Pluriel 106.3 sur la FM pour une émission en public et en direct depuis les locaux de D2L, donc notre partenaire ce soir. Et c'est une émission un peu particulière parce qu'on va parler de la prison et des conditions carcérales avec l'EIP, l'Observatoire international de prison. Je suis avec Cécile Marcel, qui est donc directrice de l'EIP. Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
Et alors, la prison, c'est quelque chose qu'on connaît bien sur FPP, c'est un sujet qu'on traite souvent, en particulier avec une émission L'Envolée, hein, vous connaissez le journal sans doute, et l'émission toutes les semaines avec des nouvelles des prisonnières et des prisonniers, avec l'émission aussi que j'anime Chapata, qui est plus consacrée à la question des prisonniers basques, et aussi avec une autre forme d'emprisonnement, c'est celle que connaissent les immigrés, avec les centres de rétention et une émission RESF, où on parle régulièrement de ce sujet aussi. D'ailleurs, les gens qui sont en centre de rétention, quelquefois, ils se retrouvent ensuite en vraie prison, comme ça vient d'arriver, puisque trois personnes qui étaient enfermées au centre de rétention d'Hendaye la semaine dernière ont essayé de sortir et ils se sont retrouvés en prison pour de nombreux mois. Donc c'est un sujet qu'on connaît bien. Ce soir, on a répondu à la demande de l'EIP, qui ont réalisé un travail à partir de textes de prisonnières et de prisonniers. Il y a d'ailleurs un journal qui est sorti l'année dernière avec des textes. Alors je vais te demander déjà la première question, Cécile, peut-être présente rapidement déjà l'EIP, on en parlera, on reviendra dessus, mais rapidement pour ceux, pour les auditeurs qui connaissent pas l'EIP, qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors l'OIP, l'Observatoire international des prisons, la section française, est une association de défense des droits en prison qui s'est donnée pour mission de faire connaître les conditions de détention, de venir en aide aux personnes détenues dont les droits sont régulièrement bafoués, et plus largement de participer au débat sur les questions pénitentiaires dans la société en France.
Alors, vous avez donc, j'aimerais que tu me dises, il y a cette lecture de texte, hein, d'où est venue cette idée d'écouter, de faire entendre la parole des prisonniers et des prisonniers.
Oui, alors effectivement, les textes qui vont être lus ce soir ont été écrits par des personnes détenues dans le courant de l'année 2018 et publiés dans la revue de Nandor, qui est la revue de l'Observatoire international des prisons. Alors dans cette revue, on donne régulièrement la parole à des personnes détenues, mais pour ce numéro, on a souhaité mettre en place un dispositif spécifique. C'était le numéro 100, donc on a eu envie de faire un numéro spécial. Et on a eu envie, pour ce numéro spécial, de donner la parole à des personnes détenues et que ce numéro soit entièrement rédigé de l'intérieur par des détenus. Alors, on a eu envie de mettre ça en place pour plusieurs raisons. D'abord pour leur donner la parole, parce que c'est souvent une parole qui est confisquée. Elle est confisquée parce qu'ils sont incarcérés et que du coup, leur parole est incarcérée aussi. Hein, et en même temps qu'ils sont privés de droits, ils sont souvent privés de liberté d'expression et on considère qu'ils n'ont pas à se faire entendre à l'extérieur des murs des prisons. Mais c'est aussi une parole qui est confisquée parce qu'elle est souvent discréditée. On porte peu de crédit à la parole des personnes détenues. Et puis aussi, c'est une parole qui est réprimée puisque le droit d'expression est n'existe pas en prison. En tout cas, il est très largement mis à mal. Les courriers sont lus et peuvent être bloqués. Les conversations sont entendues. Les actions collectives sont interdites. Et le simple fait de sortir un courrier ou un récit pour qu'il soit publié doit être soumis à l'autorisation de l'administration pénitentiaire. Alors nous, on n'a pas souhaité s'inscrire dans cette demande d'autorisation étant dans ce dispositif. On a souhaité que les écrits et les paroles restent libres. De ce fait, on a anonymisé tous les textes de la revue. Mais il faut savoir que les personnes qui nous ont écrit en sachant que leur texte allait être publié se mettaient en danger puisqu'elles bravaient un interdit quelque part et elles savaient qu'elles pouvaient être sanctionnées en faisant cette démarche. Voilà, donc c'était le premier objectif, c'était de donner la parole à des personnes auprès desquelles elle est souvent confisquée. Et puis derrière, surtout, c'était d'entendre ce qu'ils ont à nous dire de la prison, puisque de la même manière que souvent on ne veut pas les entendre, on fait peu de cas de ce qu'ils ont à nous dire de la prison une fois qu'ils sont incarcérés, peu de cas du sort qui leur est réservé finalement. Et donc on s'est dit que c'était important de savoir, d'entendre par leur bouche ce que c'est que le quotidien en détention, ce que c'est que cette peine, ce que ça veut dire dans leur relation avec les autres, ce que ça veut dire dans leur relation à leur corps, ce que ça veut dire dans leur rapport aux règles. Et au final, ces textes qu'on va entendre, ils sont extrêmement riches et ils nous disent beaucoup de choses de... pas que de la prison, en fait, des multiples peines qui vont avec la prison et qui, cumulées, nous renvoient à la question de l'absurdité, finalement, de cet prison, enfermement.
Bien sûr, bien sûr. Comme dirait notre ami Lucio Tobia, la prison, même pas pour mon pire ennemi, hein, on l'entend souvent ici. Donc il y a eu le choix des textes. Hein. Alors, vous avez fait appel à des comédiens. Alors, comment ça s'est passé, ce projet, parce que ce sont des comédiens qui vont lire les textes.
Oui, alors déjà, je voudrais les remercier parce que ça fait, plus d'un an et demi qui nous accompagne sur ce projet.
Alors, je vais les citer quand même, hein, les citer, les féliciter. Donc c'est Aurore Serra, Olivia Cross, David Antoniotti, Antoine Quintard et une autre qui a participé au projet mais qui n'est pas là ce soir, qui s'appelle Sandra Guillet. Voilà.
Alors, il pourrait en parler mieux que moi, mais il se trouve que ce n'est pas des comédiens qui se connaissaient tous ou qui avaient l'habitude de travailler ensemble. Ils ont répondu à notre appel pour mettre en scène ces lectures. Et puis, ils ont fait cette mise en scène que vous allez entendre, ou à défaut de la voir, et qui est très sobre, mais qui, pour nous, donne vraiment beaucoup
de poids.
Voilà, ils ont choisi des extraits.
Ils ont construit un texte global à partir de textes.
Exactement. Et bien sûr, c'est des extraits, ce n'est pas l'ensemble de la revue qui va être lue ce soir. Et voilà, il nous accompagne depuis plus d'un an et demi dans ses lectures et on leur est extrêmement reconnaissant.
Alors ce soir, on a aussi ici des photos de Catherine Richard qui va essayer de venir mais qui n'est pas encore là. Si elle arrive, Si ? Ah, bah, excuse-moi, je ne t'avais pas vu arriver. Voilà. Bah, il prend ce micro. Voilà. Voilà. Alors, je sais que toi aussi, tu t'intéresses beaucoup à la prison. Tu as fait Anne de Galzin, qui est cinéaste, que tu connais, ne peut pas venir non plus ce soir parce qu'elle habite très très loin sur sa péniche dans l'Est. Et donc, par contre, elle nous a envoyé une contribution qu'on va écouter tout à l'heure sur la question, une question qui intéresse beaucoup, c'est celle des femmes en prison. Et toi aussi, tu as, en plus de ton expo photo, donc tu peux peut-être nous dire deux mots, tu as fait, je crois, un film même sur...
J'ai fait plusieurs films, dont le dernier justement s'intéresse aux droits des personnes détenues, des droits dont elles jouissent mais qu'elles peuvent pas forcément, enfin qui s'exercent difficilement en tout cas et avec souvent beaucoup de retours de manivelle. Donc quant aux photos, elles ont été faites il y a pas mal d'années, mais je sais pour les avoir regardées avec des gens qui ont fait de la prison, qui sont sortis de prison il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, ce me disait qu'il y a plein d'objets qui sont encore, qui ont encore cours en prison, comme les chauffes et des choses comme ça, parce que ça reste cher de se procurer de quoi faire à manger, que c'est polluant, que les gens, en fait, ils me disaient qu'en maison d'arrêt, les gens continuent à fabriquer des objets comme ça utilitaires, en fait.
Ah ouais. D'ailleurs, dans le numéro « Dedans, dehors », il y a toute une partie consacrée à la cuisine, par exemple, en prison. Moi, je connais bien parce que j'ai eu l'occasion de goûter des pâtisseries, notamment des gâteaux basques, faits par un de mes amis qui ont été en prison. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir des systèmes D très sophistiqués.
Oui, oui. Donc, j'ai photographié pas mal d'objets qui servent à faire la cuisine, dont les chauffes. Qui sont faits de... il y a plein de chauffes différentes avec des ustensiles différents pour justement arriver à accommoder l'ordinaire. Donc soit ils se recuisinent, les gens me disaient, soit ils se recuisinent ce qui est servi par l'administration, ou bien ils cantinent des aliments et ils se font des choses... ils se font la cuisine
Mais c'est vrai,
avec
c'est
ces bon, objets-là.
L'imaginaire, il fonctionne aussi dans ce domaine-là, oui. Bon, mais merci d'être là, en tout cas. Il y a aussi une autre forme de parole de prisonnier, c'est la parole artistique, c'est quelque chose de très important aussi en prison. La création artistique, la peinture, je connais plusieurs personnes qui peignent, qui dessinent en prison, ou qui font des sculptures aussi. Il y a des expositions qui tournent en ce moment au Pays Basque. Et puis, il y a la chanson, la composition musicale aussi. Et j'ai choisi ce soir, on fera quelques pauses musicales, j'ai choisi ce soir de donner aussi la parole aux prisonnières et aux prisonniers avec des chansons enregistrées. Alors, certaines ont été enregistrées, on peut le dire, on est sur FPP, clandestinement, non officiellement, donc on en écoutera tout à l'heure. En plus, ce sont des personnes qui sont sorties aujourd'hui. Je ne donnerai pas leur nom. Donc, des prisonnières de Fresnes, en particulier, donc il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Et donc, des filles. Et c'est important de parler aussi des femmes en prison, parce qu'elles subissent une triple peine, elles, pour le coup. Et puis aussi des garçons qui ont enregistré à la fois... Donc, il y en a qui ont enregistré des chansons à Fresnes. Et puis, il y a un CD qui est sorti. Alors là, c'était avec l'accord de l'administration pénitentiaire, un CD qui a été enregistré à Lannemezan en juillet 2018. D'ailleurs, il est ici, s'il y a des gens qui sont intéressés, il est en vente pour 10 euros. Et donc, ils ont composé donc, un certain nombre de chansons, et on écoutera aussi. Donc, ce soir, c'est vraiment la parole. Peut-être qu'on peut commencer tout de suite, si vous voulez, par nos comédiens, s'ils sont d'accord. Vous êtes prêts ?
Départ promenade, troisième étage.
Arrivée en prison à la santé, j'ai été placée en cellule avec trois autres types. À 21 ans, j'étais le plus jeune. Il y avait Nas, 31 ans, Yacinto, la quarantaine passée, et Mamad, un trentenaire. En arrivant, je me suis présentée tout en installant mes affaires sur le lit qui restait disponible. Nas préparait à manger pour l'ensemble de la cellule. Quelques heures plus tard, après avoir fait connaissance avec tous les membres de la cellule, le plus ancien d'entre eux s'aventure dans un discours moralisateur et maladroit à mon égard, et conclut en disant
« T'inquiète, en prison on dort comme un bébé. »
Cette phrase m'a marquée. Des jours, des semaines, puis des mois passèrent. J'étais partie intégrante de la cellule. Nous avions chacun nos habitudes et nous connaissions celles des uns et des autres. Mamad aimait bien lire quelques passages religieux avant de s'endormir. Nas passait de longs moments à faire l'amoureux au téléphone avec une vedette de la chanson qu'il fréquentait. Et Yacinto, quant à lui, tentait désespérément de retenir sa femme avec qui il avait des enfants, qui ne supportait plus l'incarcération de son mari et s'éloignait de plus en plus. Un beau jour, bien des mois plus tard, Mamad nous quitta. Il fut libéré comme ça, alors qu'il ne s'y attendait pas du tout. Quelques heures plus tard, nous avons accueilli un nouveau détenu. Il s'appelait Ahmed et devait avoir 35 ans. Ahmed s'installa. Nas, notre cuistot attitré, nous prépara le repas. Lors du dîner, on questionna un peu Ahmed sur les raisons de son séjour en prison. Après avoir fait plus ample connaissance avec notre nouveau colocataire, Jacinto lui sortit.
Une fois qu'on est en prison, il ne peut rien nous arriver de pire. Et c'est pour ça qu'en tôle, tu dormiras comme un bébé.
Oui, mais voilà. Ce que Jacinto oublia de dire, c'est que comme un bébé en prison, tu te réveilles toutes les 2 heures pour pleurer.
Les surveillants font des blocages pour se plaindre des agressions, des injures qu'ils subissent. C'est vrai. Mais quand c'est nous qui nous faisons plier, injurier, où finissent nos plaintes ? Nous,
après
on
étouffe prison, nos plaintes. J'ai compris que la souffrance, c'est les autres.
J'ai porté plainte au moins 6 fois dans des affaires qui concernent les tensions, sans nouvelles.
Alors je vis en ermite.
Si on bloque la promenade, par exemple,
la prison pour moi est la machine à détruire l'être.
Un transfert.
La prison est la grande maisonnelle dans laquelle on a la preuve de parole de n'importe qui et de laquelle on ressort humain.
Je me lève à 7h avec la distribution du café et le ramassage des poubelles. Je le prends sans réveiller les 3 autres qui se lèvent plus tard.
Le dernier se réveille vers 10h30, 11h.
Il regarde la télé tard le soir.
7h10, je pars à la douche.
On peut y aller seulement 3 fois par semaine. Les mardis, jeudi et samedi.
Je reviens vite. Personne n'a pu se doucher correctement car l'eau est bouillante. Ce sera donc dehors, dans la cour de promenade cet après-midi.
La gamelle arrive à 11h30 à peu près. Et ils reprennent les plateaux 20 minutes plus tard. Ensuite, info à la télé.
14h, promenade, pour ceux qui le veulent. Remontée des promenades.
16h20, médicaments.
17h, repas.
17h20, ramassage des plateaux.
Télé.
Carte pour certains.
Courrier pour d'autres.
Ou préparation de pâtes ou riz pour ceux qui ne mangent pas le repas. La plupart du temps infâmes, et dont je ne pense pas qu'ils répondent à nos besoins nutritionnels.
De 20h à 20h30, info à la télé.
Personnellement, je dors vers 22h30, 23h.
Ça, c'est ma journée de merde.
11h30. Le surveillant chargé du scolaire passe dans toutes les classes pour prévenir de la fin des cours. Nous devons partir et vite. Je refais le chemin en sens inverse. J'arrive dans ma cellule après avoir traversé tous les checkpoints. Une fois assis confortablement sur mon lit, je repense à mon entretien avec ma prof. Je me repasse ses consignes. Je sais qu'elle aimerait que je sois plus productif, alors j'essaie. Mais comment aborder le sujet ? Par quoi commencer ? Par quoi finir ? Comment construire un lien logique entre les deux ? Quelles seront les différentes étapes ? Et admettons que je ne l'ai pas. Comment la mettre par écrit, moi qui suis complexé par mon écriture ? Moi qui, il y a encore peu de temps, avais des difficultés à l'écrire. Comment faire pour dépasser tout ça ? Je me dis que l'école ne doit pas être faite pour moi. Je me décourage, car j'ai trop de lacunes et pas assez de confiance en moi. Puis, dans un excès de paranoïa, j'accuse la société, le système. Je me repasse mon cursus scolaire chaotique et je me dis que si j'ai été exclu, c'est qu'on ne veut pas de moi. Alors pourquoi essayer de faire des études qui, de toute façon, ne seront pas reconnues ? Pourquoi essayer de me réinsérer, moi qui n'ai jamais été inséré ? Terme que je trouve très moche, d'ailleurs. Pourquoi ne pas continuer à faire ce que je sais faire et ce pourquoi je suis prédestiné, destiné par la société ? Puisqu'on me répète, depuis que j'ai environ 8 ans, que je suis un délinquant, un voyou, pourquoi ne pas l'accepter ? Je regarde par la fenêtre, il fait nuit. Je regarde l'heure, il est 2h14 du matin, je suis fatigué. Je reprendrai tout ça demain. Si vous lisez encore, c'est que j'ai changé d'avis. Je refuse d'être enfermé dans une case, dans une caste, dans une vie que je ne choisis pas, si ce n'est par nécessité. À 14h, je glisse un drapeau.
C'est-à-dire un papier plié en deux à travers la porte pour indiquer au surveillant que je l'appelle.
Le surveillant arrive à 15h30, m'ouvre la cellule et quand je lui demande si je peux me rendre à la cabine, ce sont toujours les mêmes paroles. Je cite.
Oui, je repasse après la promenade.
Ou encore.
Je descends les muscles et après je t'y mets. Attends, il y a le retour par Loire. Après je t'y mets.
Je patiente donc jusqu'au moment du repas vers 17h30. Et là, le surveillant me dit.
C'est trop tard.
Cela arrive pratiquement tous les jours. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres.
Promenade ?
Me demande le surveillant. Je fais signe que oui. Je sors, me place contre le mur et attends qu'un autre surveillant vienne me noter sur sa liste. Je dois présenter ma carte sous peine de me voir refuser de sortir. Je dois ensuite me placer sur la bande noire au centre de la coursive. Je n'ai pas le droit de parler, pas le droit de marcher les mains dans les poches. Pas le droit non plus de m'écarter de la bande noire, toujours sous peine de me voir refuser la promenade. Arrivé au bout de la coursive, je dois subir une palpation avant de pouvoir accéder aux escaliers. Cela permet au surveillant de contrôler les accessoires interdits que le détenu peut avoir emportés pour la promenade, Comme une serviette trop grande.
Selon leurs critères.
De la nourriture.
À l'exception de l'eau.
Des livres sur l'islam ou même simplement écrits en arabe. Les CD, les DVD sont également interdits. La liste n'est pas exhaustive. Après avoir descendu les 3 étages, je dois encore franchir un portique de sécurité détectant les objets métalliques, encadré par 3 surveillants. Si je sonne à 3 reprises, je peux être amené à subir une fouille corporelle. De manière générale, le détenu est toujours enfermé, ou plutôt ensacé.
Bloqué entre 2 portes, 2 grilles, 2 sas.
Après avoir passé le checkpoint du portique, je dois traverser un dernier petit sas qui débouche enfin sur la promenade. Là, c'est une sorte de délivrance visuelle. C'est le moment où mon champ de vision est le plus large. La promenade est le principal vecteur d'interaction sociale. Dans la cour, les détenus se retrouvent, se regroupent, par origine géographique d'abord, puis selon les affinités. Les intérêts communs peuvent être d'ordre sportif, ou ce peut être la cigarette, le shit, une série télé. La promenade est le lieu privilégié de tous les échanges, de toutes les transactions, licites ou illicites, bien que ce soit un lieu extrêmement surveillé. Pour une cour, j'ai compté 7 caméras, à quoi s'ajoutent 2 postes de surveillance, dont un mirador, qui surveille 2 cours à la fois. Être surpris en possession d'un téléphone portable peut être sanctionné de 20 jours de quartier disciplinaire. QD dans le jargon pénitentiaire, et mitard, ou tarmi en argot, une prison dans la prison.
Dans la cour, tous les détenus tournent en rond, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pourquoi ? J'ai mes 2 hypothèses. La première, c'est que l'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre parce que, inconsciemment, on souhaite remonter le temps pour changer le passé. La seconde théorie serait que les individus auraient le cœur si lourd qu'ils feraient pencher le corps sur le côté gauche, créant ainsi une déviation de la trajectoire dans ce sens. Autre phénomène saisissant, à première vue. Sur environ 230 détenus dans la cour de promenade, seulement 2 sont français. Pardon, typés français, blancs.
Comptage effectué un dimanche matin.
L'écrasante majorité est noire et de type maghrébin. Mais peu importe leurs origines ou leur couleur de peau, ils sont tous issus de la même classe sociale. Tous viennent de familles modestes.
Pour ceux qui ont une famille.
Et de quartiers populaires. Et ont eu un parcours scolaire chaotique. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux éprouvent des difficultés à lire et à écrire correctement. Existe-t-il un lien de causalité entre le manque d'apprentissage scolaire et la délinquance ? Je ne pense pas que les classes modestes soient prédestinées à devenir criminelles, ou même qu'il y ait plus de délinquants chez le pauvre. En revanche, je constate des inégalités devant les tribunaux. D'où l'opinion assez répandue dans les cours de promenade des prisons françaises que, partant du principe que le pauvre est faible, alors la justice est forte avec les faibles, mais elle est faible avec les forts. Outre les échanges d'objets, la promenade, favorisant l'interaction sociale, permet l'échange d'idées. Ainsi, on peut entendre des individus qui débattent de politique, de religion, de foot ou autres sports, de sujets d'actualité, ou plus simplement des conditions de vie des détenus. À quand la prise de conscience de la condition humaine dans les prisons françaises ? Lorsque les esprits s'éveilleront, ils se battront pour améliorer leurs conditions.
5h15. On vient me chercher dans ma cellule. Toujours la même musique désagréable, le son des loquets, des portes qui claquent, réveillant du même coup toute la coursive. Puis le bruit de la clé qui tente de trouver le bon angle dans la serrure. Après quelques instants, la porte s'ouvre. Je suis déjà prêt. Je me suis levé 1 heure avant pour me préparer. Puisque c'est la même musique, c'est aussi la même danse. Je sors, me range à côté de la porte, contre le mur. Palpation, vérification des documents en ma possession. Une fois le contrôle effectué, je me place machinalement sur la bande noire au centre de la coursive et, escorté, nous nous dirigeons vers le rond-point. Je suis les surveillants jusqu'à une aile où ils ouvrent une porte m'indiquant que je dois y entrer. Me voilà dans une petite pièce d'environ 10 mètres carrés, avec une bonne dizaine d'autres détenus. Une 40aine de minutes plus tard, les surveillants viennent nous chercher. Nous montons à bord de la camionnette et sommes conduits au dispatching.
Le dispatching est le lieu commun à tous les détenus qui entrent ou qui sortent. Un grand hall froid et sec, éventré, traversé par des courants d'air. Là, nous sommes regroupés par lieu de destination, hôpital, tribunal. Nous attendons qu'une escorte de la gendarmerie vienne nous chercher. Lorsque les gendarmes arrivent, nous sommes sélectionnés pour une FI.
Fouille intégrale.
Un par un, nous sommes emmenés dans une cellule à l'écart du hall. Puis encadré par 2, 3, parfois 4 gendarmes, il nous est demandé de nous déshabiller. Tous nos vêtements sont minutieusement inspectés. Une fois complètement nus, nous devons lever les bras en l'air pour qu'ils puissent inspecter nos aisselles. Puis nous devons ouvrir la bouche et tirer la langue vers le haut afin qu'ils soient certains que rien n'y est dissimulé. Il arrive aussi que certains agents nous demandent de relever nos testicules pour plus de précautions.
Voilà pour le côté face.
Toujours à poil, il nous est demandé de nous retourner et d'écarter les jambes, puis de lever les pieds l'un après l'autre pour en montrer la plante. Là, certains agents s'accroupissent pour mieux inspecter notre cul. L'inspection finie, enfin nous nous rhabillons, puis nous sommes priés d'attendre dans une autre cellule que tout le monde ait été fouillé, avant de nous faire embarquer dans la bétaillère.
Bétaillère est le terme utilisé dans le jargon de la gendarmerie et de la pénitentiaire pour désigner le camion destiné au transport des détenus. À l'intérieur, environ 8 compartiments, chacun pouvant stocker 4 personnes. Les détenus l'appellent la boîte de nuggets, en référence à la nourriture qu'ils avaient l'habitude de consommer avant l'incarcération.
Les nuggets étant souvent vendus par 4 chez McDo.
Nous nous arrêtons à la maison d'arrêt pour femmes. 3 femmes montent dans le compartiment qui était resté vide.
Sur le trajet, j'entends un détenu essayant d'engager une conversation avec une détenue. D'autres se joignent à la conversation. Une suite de réflexions désobligeantes à l'égard de ces femmes, des railleries mesquines qui deviennent une surenchère d'insultes humiliantes. Les gendarmes n'interviennent pas. L'un semble sourire, un autre rit de bon cœur à une remarque vulgaire et de mauvais goût dirigée contre l'une des femmes qui semble être d'origine roumaine. Déduction hypothétique basée sur son teint et sa tenue vestimentaire. J'en cite une sobre en exemple.
Elle, les filles, vous êtes là pour quoi ?
Elle, ça se voit que c'est une roumaine. Elle doit être là pour vol, pickpocket. Ouais, gendarme, fais attention, elle va te vider les poches.
Par contre, moi, je veux bien qu'elle me vide les...
Gêne. Honte. Haine. Je n'ose même pas regarder ces femmes de peur d'alourdir leur fardeau par le poids de mon regard. Je ressens un besoin de massacre. Une vision de carnage sanglant m'envahit. Il faut que je me calme. Heureusement que par nature, je ne suis pas impulsif. J'interpelle l'un des instigateurs qui se trouve dans ma cage. Tu t'es fait avoir ? T'es tombé dans leur piège.
Comment ça ?
La meuf, tu la connais même pas. Tu connais pas son histoire. Tu connais pas sa vie. Tu sais pas pourquoi elle est là. Tu vois même pas qu'elle est dans le même bateau, dans la même galère. Tu crois qu'elle a pas assez de problèmes dans sa vie pour que nous, on lui en rajoute ? T'imagines, je t'envoie dans un pays étranger. Je te mets au placard, je t'enferme dans une cage et je ramène plein de tolards qui t'encerclent, se foutent de ta gueule et t'insultent dans une langue que tu comprends pas, ou à peine. Imagine maintenant qu'ils fassent ça à une fille que tu connais, une copine, même une cousine, une sœur, pire, ta meuf. Mets-toi juste à leur place.
Ouais, j'avoue, mais ça me rend fou ici. On dirait qu'ils veulent me pousser à bout.
Je sais, et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous rendre à l'état animal, qu'on devienne des bêtes, pire, mauvais. Ils nous privent de savoir, de connaissances, nous maintiennent dans l'obscurité pour que l'on devienne sombre. Ils nous privent même de sexualité pour nourrir notre frustration. Ils sont en train de nous déshumaniser. Avant, quand t'étais dehors, tu prenais les transports, le métro, le bus. Tu parlais pas comme ça aux meufs ?
Non, bah non, jamais.
Alors pourquoi ici tu le fais ? Tu vois, c'est ça que je voulais dire quand je te disais que t'étais tombé dans le piège et qu'ils t'avaient eu. Parce que maintenant, quand ils vont voir comment tu te comportes, ils diront...
Ah bah vous voyez ? Nous avions raison de les mettre en prison, puisqu'ils savent pas se comporter. Vous voyez comment ils se parlent entre eux ? Ce sont des sauvages, des barbares.
Direction le tribunal de grande instance de Paris. En prison depuis plus de 7 ans, je n'ai plus l'habitude des véhicules. Ce trajet me rend malade, nauséeux, avec des vertiges et de très douloureuses migraines. Il me faudra un jour ou deux pour récupérer, et je sais que, affaiblie, je serai incapable de me défendre correctement devant le tribunal.
Nous sommes checkés, un par un, puis conduits à la souricière.
Terme officiel utilisé par les magistrats, les gendarmes et les surveillants pour désigner l'endroit où l'on stocke les détenus dans l'enceinte du tribunal. On peut d'ailleurs, dans le dédale de couloir, croiser des pancartes souricières indiquant la direction à suivre.
Cette dernière est composée de cellules où nous sommes rangés par 2 ou 3. Ces cellules sont munies de toilettes turques sans séparation, sans intimité. Elles sont étroites. En écartant les bras, je touche les 2 murs opposés. Ils sont d'un jaune crasseux. De nombreuses taches sur les murs laissent penser qu'il s'agit d'excréments et ou de sang. Ces cellules sont habitées par de nombreux moucherons. Elles sont disposées en enfilade, sur 2 niveaux.
Elles font penser aux images que l'on a des prisons américaines. De longues rangées de cellules sur plusieurs étages avec des portes à barreaux. Pour nous, ce sont des portes à grillage. Il doit être environ 8h30 du matin. 2 gendarmes se dirigent vers le surveillant en poste et lui remettent un ticket sur lequel est inscrit mon nom ainsi que l'emplacement du bureau du juge d'instruction qui m'a convoqué. Le gardien hurle mon nom dans l'espoir que je me manifeste. Je réponds
« Là !»
Il s'approche de ma cellule, accompagné des 2 gendarmes qui me demandent de les suivre. Il m'amène dans une cellule aménagée pour me fouiller, exactement de la même façon qu'au dispatching. À la fin de ma fouille, l'un des gendarmes me met des menottes qui sont attachées à une laisse. Puis, tiré par la laisse, je suis contraint de suivre le gendarme dans un dédale de couloirs étroits en sous-sol.
Sale. On y croise quelques pièges à rats.
Nous empruntons un escalier en colimaçon et plus nous montons, plus c'est propre et lumineux. Nous arrivons dans un couloir où se succèdent les bureaux des juges d'instruction. Nous nous arrêtons devant celui me concernant. Le gendarme, qui me tient toujours en laisse, se présente seul, me dissimulant derrière le mur. Le juge demande au gendarme de bien vouloir patienter car mon avocat n'est pas encore arrivé. Quelques secondes après, ce dernier se présente au bout du couloir. Le juge semble se réjouir de sa présence et s'exclame
« Très bien, nous allons pouvoir commencer !»
Le gendarme qui m'avait lâché un peu de lest exerce une pression sur la laisse pour me faire comprendre de venir. Sur le seuil, il m'enlève les menottes. Mais les stigmates trahissent l'hypocrisie de cette procédure. Pendant l'audition, mes poignets emportent encore la marque. Après avoir passé près de 4 heures dans le bureau du juge, on me remet les menottes, toujours reliées à la laisse. Nous empruntons en sens inverse le chemin de la souricière. Deux surveillants s'approchent en traînant un chariot où sont entreposés un tas de sacs plastiques bleus opaques. Je comprends qu'il s'agit du repas.
Les surveillants distribuent un sac et une bouteille d'eau par personne. À l'intérieur, un mini paquet de chips dont la date de péremption est dépassée depuis 5 jours, une boîte de conserve de thon ouverture facile, un quignon de pain, une compote et un petit biscuit type galette bretonne. Le tout accompagné d'un set de table en plastique. Il est 13h, ma journée est finie et je dois patienter dans cette cellule jusqu'à ce que tous les détenus soient sortis de leur audition ou de leur procès, peu importe l'heure à laquelle ils terminent.
Pendant cette longue attente, de la patience naît l'ennui.
De cet ennui naît une réflexion sur l'institution dans laquelle je me trouve.
Ainsi que sur son fonctionnement.
Il est environ 22h lorsque l'on vient me chercher. Nous sommes à nouveau fouillés, un par un, par les gendarmes, et placés les uns derrière les autres, en attendant que tout le monde soit passé. Nous revoilà conditionnés par quatre dans les boîtes de nuggets. Ballotage, accélération.
Secousse.
Freinage.
Laissez mijoter le tout pendant une bonne quarantaine de minutes et nous arrivons à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Fleury, pour les intimes et les initiés.
Arrivés au dispatching, nous patientons pour être fouillés, cette fois par les surveillants. Puis nous attendons qu'une camionnette ou un chauffeur soit disponible. Nous embarquons regroupés par bâtiment, puis nous sommes livrés devant nos bâtiments où nous attendent d'autres surveillants qui auront la charge de nous escorter jusqu'à nos cellules respectives. Nous ferons une halte à chaque étage le temps que les détenus soient réaffectés dans leurs cellules. Le processus nous paraît interminable. Tant nous sommes épuisés et sales. Arrivé devant ma cellule, le surveillant ouvre la porte et là...
Là,
il se passe...
Un étrange...
Phénomène...
Connu...
De tous...
Les détenus.
On est envahi par un sentiment de bien-être.
Une sorte de soulagement.
Celui d'avoir retrouvé un peu de confort.
Son petit confort...
Familier,
quotidien.
Comme si on s'était approprié cette cellule.
Comme si...
Inconsciemment.
On éprouvait un sentiment...
De sécurité à l'intérieur.
Le sentiment d'être...
Chez soi.
Il est environ minuit. Je grignote, je me lave, puis...
Enfin.
Je me couche.
Ce n'est pas en enfermant des êtres humains comme des animaux, dans des cages avec des barreaux, des grillages aux fenêtres, privés de tout, de l'amour, de la communication, de l'affection, de soins, de nourriture normale durant des jours et des jours, des semaines, des mois, des années, que l'on peut espérer une société sereine et pacifique. De la violence surgit la violence. De la haine avec laquelle le détenu est traité au quotidien ne peuvent germer qu'haine et dégoût. Et encore... Soyons rassurés de voir qu'il y a 1000 fois moins de haine et de violence exprimée qu'il y en a de subies. La violence pénitentiaire, c'est le système qui l'a produit. Le mec a fait de la prison pour un délit ou un crime. On l'a enfermé dans sa cage. 10 ou 15 ans après, il sort sans soins, sans accompagnement, sans famille, sans moyens. Et on lui demande d'être redevenu comme tout le monde. Il a été déconnecté de l'existence pendant des mois, des années. Qu'est-ce qu'on croit ? Qu'il est guéri. La prison ne guérit pas. On ne guérit pas le mal.
Par le mal. Le mal se soigne par le bien. Si on considère qu'il doit changer, c'est que l'on reconnaît une anomalie dans son comportement, une différence. Ce qui justifie un programme, des soins, des observations, etc. Or, il n'existe rien. Et celui qui récidive est doublement, triplement triplé, réuni, puni, enfermé, alors que rien n'a été fait pour l'aider à se soigner. Et les victimes ? La prison va-t-elle changer quelque chose pour la victime ou sa famille ? Bien sûr qu'il existe des cas pénibles, douloureux, impardonnables. Mais le fait est là. La prison...
ne sert à rien. Elle détruit des familles toutes entières. Elle les broie, les pulvérise, les sépare en confettis, les torture. On ne met plus les animaux en cage. On lutte contre la souffrance animale dans les batteries de poules pondeuses. Les animaux ont une âme. Des émotions connaissent la souffrance, la dépression. Comment en serait-il autrement pour l'homme ? La rédemption, les regrets, le remords, le désistement de la marginalité sont les valeurs que l'individu reconnaît, ingère, accepte dans les 2-3 premières années de prison, de privation de liberté. Après, les sentiments changent. Les peines sont...
trop lourdes, trop inhumaines. Les idées ne manquent pas pour rendre la peine utile, efficace, bénéfique aux deux parties, coupables et victimes. Utiliser les détenus pour le développement d'un territoire, intervenir sur des catastrophes, assister gendarmes et pompiers dans certains exercices de recherche ou de sauvegarde, intervenir auprès des malades, des vieux, en accompagnement à domicile, etc. Avec les bracelets, il n'y a plus à mettre les boulets pour empêcher la fuite. Il y a besoin d'aide de partout. Ce n'est pas en construisant des prisons que le peuple vaincra la violence et la délinquance. C'est en passant par le pardon, la compréhension, la réinsertion.
Et l'insertion au préalable, par l'école, la culture, la bonté, le partage. Cette peine a été le pire cauchemar de ma vie. Au début, j'avais de la haine envers la justice, envers tout le monde. Je me disais, attendez que je sorte, je ferai bien pire.
Laisse-moi vivre.
Mais les jours, les mois ont passé, et avec la visite de mes proches au parloir qui m'ont raisonné, parlé, conseillé, j'ai commencé petit à petit à ouvrir les yeux, à faire un travail sur moi, à éviter les détenus qui avaient des discours qui m'intéressaient de moins en moins.
Laisse-moi libre.
J'ai commencé à réfléchir sur ce que j'avais fait et pour la première fois, j'ai senti du regret, de la honte envers moi-même. Je me suis mis à aller à l'école, à la bibliothèque.
Laisse-moi vivre.
Petit à petit, j'ai commencé à changer, à être autonome, à avoir un autre langage, à mieux m'exprimer, à voir les choses autrement.
Laisse-moi goûter.
Plus les jours passaient, plus j'étais motivée aussi pour préparer mon avenir.
Laisse-moi voir.
Mais je tiens bien à préciser que je n'ai reçu aucune aide de personne, à part de ma famille, pour changer.
Laisse-moi vivre, parce que j'en ai besoin, parce que je te le demande. M'entends-tu ou ne vis-tu que par cette fonction qui t'enferme dans des formules napoléoniennes ?
Laisse-moi libre.
Laisse-moi vivre.
Laisse-moi gambader dans les prés comme ce mouton que j'ai toujours refusé d'être.
Laisse-moi goûter l'herbe et m'asphyxier de verdure. J'en ai assez du gris. Il m'a rongé à petit feu comme la lèpre. Je me sens sale. Je me sens maigre, je me sens aigre, amer.
Laisse-moi voir la mer pour qu'elle me lave, que je regarde le sel prendre vie sur ma peau. Mes gènes risquent d'oublier cette simple notion, le loin, le lointain, un horizon sans fin. Pense à moi autrement que par des chiffres et des cotes et des notes. Si, de musique.
Laisse-moi aller à l'opéra, découvrir Puccini de vive oreille, m'enflammer de vivace à la fin du spectacle. Moi aussi j'aime la musique, la grande musique, les arts, le beau. Es-tu si différent de moi ?
Alors laisse-moi, par respect, par humanité ou par simple bon sens, laisse-moi oublier ma colère.
Laisse-moi panser mes plaies. L'animal blessé n'est l'ami de personne. Quel est le but de tout ceci ? Je ne parle même pas d'utilité, mais de sens, de cohérence.
Laisse-moi reprendre le fil de ma vie. Cela fait 7 ans que je suis mort. Non, j'exagère, mon cœur bat, fort même. 7 ans que je suis inutile, que ma vie est froide, que je vis au milieu de reptiles, de moutons, de loups et de vautours. Je suis devenu un biologiste de renom. Tu n'as fait qu'agrandir ma renommée, étoffer mon curriculum, malheureusement.
Et je le sais, je suis prêt. Et puis ça ne te coûte rien, bien au contraire. Quoi alors ? L'opinion ? Ravale ce prétexte que je ne saurais entendre. Au-delà d'un certain seuil, la sanction devient vengeance. Celle-là même que tu montres du doigt.
Laisse-moi.
Laisse-moi parce que j'ai laissé ma vie de l'autre côté de ce mur. Ma flamme est devenue veilleuse. Mon bonheur est ailleurs, juste derrière ces barbelés.
Laisse-moi voir le futur.
Laisse-moi sentir son souffle au creux de mon cou, dans la lumière du matin.
Laisse-moi entendre le cri des enfants, répondre aux milliards bien comptés des questions de mon fils.
Laisse-moi rendre des gens heureux, parce que je te le dis, parce que je le sais, parce que c'est évident. Pourquoi ne dis-tu rien ? Rien d'autre que ces articles et alinéas. Tu ne parles pas, tu décides.
Laisse-moi décider aussi, de l'heure à laquelle j'irai prendre l'air, du jour où je reverrai mon frère.
Laisse-moi être, revoir la terre de mes ancêtres, voir Jérusalem, l'Albanie et le Grand Canyon, me peindre de teinture ocre et hurler comme les cieux.
Laisse-moi être un homme, papillonner, dire aux femmes tous les charmes que je leur trouve, redécouvrir ce qui n'existe plus que dans mes souvenirs.
Laisse-moi vivre. Je ne peux pas m'empêcher de le demander. Si tu veux mon respect, alors réponds-moi au moins en me respectant. Je sais pouvoir accepter un refus du moment qu'il est clair, lui aussi.
Sinon, laisse-moi tranquille.
Je crois qu'on peut remercier Aurore, Olivia, David, Antoine, et bien sûr à travers eux, ceux qui, celles et ceux qui, en prison, ont écrit ces textes, à partir desquels donc, a été construite cette représentation, je ne sais pas, cette lecture. Voilà, on va vous laisser peut-être respirer quelques instants, que j'étais un petit peu assimilé, parce que c'est vraiment c'est fort. Hein. Moi, on écoute ça avec beaucoup d'émotion, enfin, en ce qui me concerne en tout cas. On va faire une petite pause musicale. Je propose qu'on écoute des filles qui chantaient en prison. C'était à Fresnes. D'ailleurs, vous avez retrouvé la chanson. Hein. Et puis après, on prendra le. Voilà.
Nous sommes. Nous sommes.
Nous sommes.
Non, stop. Sou brasileira.
We are.
Gada.
Nous
Mongolie.
Nous sommes.
Des femmes transsexuelles sans genre, jeunes, vieilles, sans âge, douceurs, seules ou par père. Prisonnières, libres, invisibles, analphabètes, propriétaires, pauvres, folles, velles, grosses, poilues, bêtes sauvages. Poitines, sates, pattes, plates. Blanches, noires, jeunes et rousses. Saines, malades, sourdes, pliées, droites, hallucinées, gamines, filles, enfants.
Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Nous sommes la terre qui accouche sans douleur. Nous sommes la terre, mère, nous sommes la vie. Nous sommes le ciel, infini, unique, seul et entouré. Nous sommes la mer, l'âce profonde, si puissante que mystérieuse. Nous sommes le feu, la force, les rises, la chaleur, la lutte, la lumière. Nous sommes le vent, libre et rêveuse, invisible et insaisissable. Nous sommes la nature tout entière. Nous sommes la mort, nous sommes la naissance.
Nous sommes
voleuses, terroristes, putes, assassines, falsificatrices, trompeuses, menteuses, violents, escroques. Nous ne sommes pas des violeuses.
Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Nous sommes les rires et la sourire, les pleurs, la colère, la peine et les cris, les découragements tant que les courages, les deuils, la douleur, nous sommes les soins, la douceur, l'amour et les fours.
Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout.
Nous sommes las. Émerdeuses, courageuses, encourageantes, fugitives, clandestines, affronteuses, sottes, douces, coquines, érotiques, sexuelles, pénétrées, humides, mouillées, éjaculées, inculées, joyeuses, tendres, fermes, rudes, désirées, désireuses, sales, salopes.
Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout.
Nous sommes. Frappés, battus, violés, insultés, assassinés, méprisés, opprimés, humiliés, torturés, interdits, même mutilés.
Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Nous sommes la conscience, nous sommes debout. Nous sommes forte, battante, révolutionnaire. Nous sommes la solidarité, la défense, l'attaque. Nous sommes comme ça. Nous sommes ce que nous voulons être. Nous sommes là et ici, mais aussi ailleurs. Nous sommes les corps, les sangs, la peau, les entrailles et les os. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes nous. Nous sommes. Nous sommes les mots, mais aussi les silences.
Voilà, alors c'était des filles, des prisonnières depuis la prison de femmes Fresnes qui ont enregistré donc cette chanson, composée, enregistré cette chanson il y a quelques années. Eh bien, on se retrouve donc en direct depuis D2L, donc à l'antenne de Fréquence Paris Pluriel, 106.3 sur la FM. Pour une émission donc consacrée au milieu carcéral avec l'Observatoire international des prisons. Il y a Anne de Galzin qui devait venir, mais malheureusement, elle n'a pas pu parce qu'elle habite en province et elle a dû être coincée sur la route. Mais elle m'a envoyé une petite contribution sur la condition des femmes en prison. Je vous propose de l'écouter maintenant. Ensuite, on prendra donc la discussion et le débat avec donc Cécile de l'EIP et peut-être les acteurs qui nous expliqueront, peut-être qui nous diront pourquoi ils ont fait ça. Et il y aura peut-être un échange avec eux aussi. On va écouter tout de suite donc Anne de Galzin.
Je travaille dans l'audiovisuel et à ce titre, j'ai passé un an à Réau, au centre pénitentiaire du sud de Paris, pour la mise en route d'un canal vidéo interne. Et le canal vidéo interne, c'est une chaîne qu'on fabrique en prison et qui est accessible sur toutes les télés de la prison et donc dans les cellules. Donc j'en profite pour rappeler que la télé est payante en prison et donc tout le monde n'a pas le droit de la voir. J'en profite aussi pour dire que la pénitentiaire a l'obligation de mettre en place le canal vidéo interne. Alors Réau, c'est un centre pénitentiaire qui est situé donc au sud de Paris avec un centre de détention hommes où il y a plus de 400 personnes et un centre de détention femmes où elles sont environ 70. Il y a aussi un CNE, donc un bâtiment pour le centre national d'évaluation et une maison centrale. J'ai trouvé que c'était très difficile de travailler en prison parce que c'est très difficile de se situer en tant qu'intervenant en prison. Personnellement, je suis contre ce système pénitentiaire. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet. Mais je me suis rapidement retrouvée dans une position ambiguë, inconfortable, avec d'un côté le monde de la pénitentiaire, à qui on a affaire tous les jours, et de l'autre, les détenus, avec qui on travaille. En fait, et pour lesquels on est là. En fait, ce n'est pas le sujet que je veux développer aujourd'hui, mais c'est l'éternel questionnement. Dans quelle mesure je ne fais pas le jeu de la pénitentiaire en travaillant en prison, même si l'activité que je développe profite aux détenus. Là où je veux en venir, en fait, c'est une espèce de mise en garde, parce que c'est possible de se retrouver dans un espace comme ça, dans une espèce plutôt de banalisation, c'est-à-dire qu'on oublie un peu la prison parce qu'on essaie de gérer au mieux ce qu'on est en train de faire à l'intérieur, quoi. Et c'est un piège. Donc j'ai donc passé un an à circuler partout dans la prison de Réau, et notamment chez les femmes. Et les femmes sont confinées donc dans un bâtiment, c'est un peu la prison dans la prison. Et le canal vidéo, donc de son côté, il est à l'extérieur dans un autre bâtiment, il y a une salle dédiée au canal, et avec du matériel de tournage, du matériel de montage, et c'est là qu'on se réunit pour travailler. Et j'ai demandé à ce que les femmes aient le droit de venir au canal, et en fait ça a été refusé pour des raisons de sécurité, puisque les femmes n'ont pas le droit de croiser les hommes. Voilà. Donc c'est là où je veux en venir. En fait, c'est la situation des femmes en prison, et sur plusieurs aspects, le fait qu'elles n'aient pas d'accès à toutes les activités, l'image que leur envoie la société, la question de la maternité, la question de l'architecture des prisons avec les quartiers de femmes, et à l'intérieur du quartier, les modules pour les femmes qui viennent d'avoir des enfants. Donc concernant le fait qu'elle n'ait pas accès à toutes les activités, par exemple, j'avais fait la demande à ce qu'il y ait des femmes au canal. Ça a été refusé, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il faut un dispositif de surveillance très important et impossible à mettre en place. Autre exemple, le terrain de sport. Elles ont bataillé pendant des années pour avoir le droit d'aller sur le terrain de sport. Pourquoi ? Parce qu'il fallait bloquer toute la détention pour qu'elle passe, puisque les hommes et les femmes n'ont pas le droit de se croiser, et qu'une fois sur le terrain, elles étaient visibles par les détenus hommes depuis les fenêtres des cellules. Donc, elles sont restées des années sans pouvoir courir, sans pouvoir pratiquer de sport dehors. Je rappelle que c'est un centre de détention et que ce sont des longues peines qui sont là, même si il est vrai que de plus en plus, pour alléger les maisons d'arrêt de la région parisienne, notamment Villepinte, de plus en plus il y a des courtes peines aussi, des gens enfin, qui ont des courtes peines à faire, qui se retrouvent à Réau. Donc, pour continuer sur la question des femmes, c'est clair que le fait qu'elles soient moins nombreuses, ça les pénalise, comme si leur bâtiment était une prison dans la prison. Pourtant, je rappelle que Réau a été construit en 2011, donc c'est une prison Sarkozy, et on peut franchement se poser la question du travail des architectes. De la même manière, ils ont mis en place un module spécial pour les femmes qui sont avec leur bébé. Alors j'en sais très peu sur le sujet puisque ça venait de se mettre en place quand je suis partie. Ce que je sais, c'est qu'à l'époque, donc il y a 2 ans, c'était un module où vivaient 2 femmes avec leur bébé, qu'elles étaient privées de toute activité avec les autres femmes, et donc qu'elles étaient vraiment seules et qu'elles se retrouvaient totalement isolées. Et à 2, c'est-à-dire aussi avec les risques qu'on imagine quand on vit enfermé en prison 24 heures sur 24 avec la même personne, bon, sans parler des graves problèmes pour les enfants. Voilà, donc j'ai parlé avec une femme détenue, plus particulièrement, qui avait, elle, une analyse sur ce qu'elle vivait depuis des années en prison, hein, plus de 10 ans. Et elle disait que les femmes étaient, dans tous les cas, condamnées à une double peine, parce qu'elles étaient condamnées pour leur acte, mais aussi parce qu'elles étaient femmes, et que la société n'accepte pas l'image même de la femme en prison, de la femme détenue, comme si elle n'avait pas le droit d'être détenue. Bon, c'est drôle de dire ça, mais voilà. Elle prenait l'exemple de toutes ces femmes qui n'étaient plus appelées au parloir. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une démobilisation de la part de la société. Beaucoup de femmes n'ont plus de visite. Donc, petit à petit, on les abandonne. La société, les amis, la famille les abandonne. Voilà. Donc, c'est surtout sur ce point-là que je voulais parler. Je pense qu'il y a quelque chose d'urgent à faire pour les femmes en prison. Voilà, merci.
Voilà, on revient au direct. Voilà, alors il y a un peu de monde, alors ils en ont profité aussi pour s'approcher du bar, parce qu'on a la chance d'avoir un bar ici. Mais voilà, on revient donc au direct, on est toujours donc sur Fréquence Paris Pluriel pour une émission sur le milieu carcéral. Donc je disais au début de cette émission... c'est un sujet qui nous tient à cœur sur Fréquence Paris Pluriel. En particulier, on a une émission que vous connaissez sans doute, L'Envolée, qui d'ailleurs font une revue. Je peux faire de la pub aussi si vous voulez vous abonner. Déjà, peut-être qu'il y a des échanges, des réactions par rapport à ce que vous avez entendu, à cette lecture de texte. Si quelqu'un veut intervenir à chaud. Voilà, alors voilà, bah, c'est Antoine, bien sûr. Hein, bah, tu peux peut-être parler justement de. Puisque tu es à l'origine de cette construction de texte, hein, tu peux me dire quelques mots.
Oui, qu'est-ce que tu veux savoir ?
Donc l'un des comédiens, donc. Antoine.
Bonsoir. Voilà.
Donc, qu'est-ce qui t'a amené à répondre favorablement à cette demande sur les textes en prison ?
Ce qui nous a tous amenés, les comédiens et comédiennes, à cette demande de l'OIP, c'est que. Tout simplement, c'est une parole qui a besoin d'être entendue, en fait. C'est des gens qui ont des choses à dire. Il y a cette, un peu, c'est assez fermé la prison, et nous, on trouvait ça important de par notre métier de pouvoir donner la parole à ces personnes qui ne l'ont pas à l'extérieur. Et l'OIP a cette possibilité de créer un peu des échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Donc je crois que nous, tous et toutes, on a été motivés par vouloir faire quelque chose, de donner la parole, de prêter notre voix pour ceux qui n'en ont pas à l'extérieur. Donc ça nous a donné envie de le faire. Et les textes sont magnifiques. Et toute la revue Dedans Dehors est vraiment... on a dû sélectionner donc 30 minutes de textes.
Oui, mais il y a une construction, vraiment, en fait. En fait, il y a une construction à partir de...
Oui,
de
alors textes, on a pris la construction de base de Dedans Dehors, de comment l'OIP l'a construite. Oui. C'était vraiment déjà réfléchi. Donc nous, on a suivi la même logique. Et après, on a essayé de surtout ramener un résumé, mais que le plus grand nombre soit représenté dans ces textes, que ça soit assez global, pas forcément une chose spécifique, parce qu'il faudrait plus de 30 minutes pour traiter une parole un peu spécifique.
Mmh. Ouais. Ben merci en tout cas pour ce beau travail.
Merci à vous, vous êtes formidable.
Alors, je veux dire qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de textes dans l'envolé, on en parlera. Je crois qu'il y a quelqu'un dans l'envolé qui s'est joint à nous. Voilà, je crois que Serge est là, donc je te demanderai d'intervenir et de donner la parole de l'envolé ce soir. On va peut-être revenir donc avec Cécile sur l'EIP. On dira quelques mots tout à l'heure de la situation particulière financière de l'EIP, qui est une situation difficile financière, mais qui est due à des choix politiques. Pas de l'EIP, bien sûr, hein, mais du pouvoir politique. Parce que l'EIP doit déranger quand même un tout petit peu. Alors, en ce qui concerne l'EIP, il y a quelque chose qui m'a intéressé j'étais voir le site de l'EIP avant de préparer cette émission. Quelque chose qui a été fait sur la violence en prison, et pas la violence de la part des détenus, parce que bien sûr, souvent quand vous regardez les journaux télévisés ou les émissions, on parle des horribles détenus qui s'entretuent entre eux ou qui massacrent les pauvres matons. Mais là, on parle de la violence justement des agents de l'administration pénitentiaire. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le travail que vous avez fait là-dessus ?
Oui, alors on a effectivement publié à l'été dernier un rapport d'enquête qui s'appelle Omerta, Opacité, Impunité, enquête sur les violences perpétrées par des agents pénitentiaires sur des personnes détenues. Et cette enquête, elle fait suite en fait aux très nombreuses allégations de violence qu'on reçoit, nous, à l'OIP, presque quotidiennement de la part de personnes détenues ou de proches de personnes détenues. Devant lesquels on est finalement assez démunis parce qu'on n'a pas forcément les possibilités d'aller vérifier et enquêter sur ces allégations de violence. Et puis surtout, ce qui nous a frappé, c'est que c'est des violences qui nous sont remontées très régulièrement et qui n'existent pas en revanche dans l'espace public, dans le débat public, pas non plus dans les chiffres de l'administration pénitentiaire et pas non plus dans les études de l'administration pénitentiaire, parce que c'est un non-sujet en fait. Donc nous,
c'est
on a
caché.
Eu c'est caché parce que c'est caché derrière les murs des prisons,
parce
mais
que
c'est
eux,
aussi
eux savent où se trouvent les caméras, donc ils font bien attention
voilà,
de pas filmer.
Voilà, et c'est caché par plein d'aspects. Donc on a eu envie nous d'abord de dresser un petit peu un état des lieux de ces violences, de quoi on parle, de quel type de violence on parle, est-ce que c'est répandu, quand est-ce que ça se produit, etc. Et puis surtout d'aller après essayer de décrypter les rouages qui font que ces violences se perpétuent. Donc ces rouages, c'est effectivement l'omerta, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que ces violences, elles sont cachées, mais elles sont aussi tues, elles sont cachées parce qu'elles sont commises en dehors des caméras de vidéosurveillance, oui. dans les angles, dans les salles, dans les cellules de quartier disciplinaire, dans les coins cachés, mais elles sont aussi tuées par les personnes détenues parce qu'à partir du moment où elles les signalent, elles s'exposent à des représailles. Elles sont tuées aussi par les agents pénitentiaires qui peuvent en être témoins et qui peuvent les désapprouver parce qu'évidemment c'est pas une majorité de personnes qui les commettent, mais qui dès lors qu'ils vont condamner l'attitude d'un de leurs collègues vont être complètement marginalisés dans le groupe et vont vivre un quotidien extrêmement perturbé. Donc tout ce système fait que personne finalement n'a intérêt à signaler ces violences. Et puis derrière, la machine judiciaire ne permet absolument pas aux victimes d'obtenir justice. C'est-à-dire que quand on est victime de violences, si on décide malgré cette omerta de porter plainte, bah, d'abord on va vous demander de faire la preuve de ces violences. En fait, la preuve, bah, y a pas d'image de vidéosurveillance. Les témoins, ils se taisent. Le certificat médical, dans bien des cas, c'est difficile d'accéder à un médecin. C'est difficile de que le médecin accepte de faire un certificat médical parce que les personnels soignants sont aussi victimes de pression. Il faut arriver à produire ces pièces. Il faut souvent être accompagné par un avocat. Donc ça aussi, c'est compliqué. Donc
au final, se retourner contre les prisonniers eux-mêmes.
Complètement. Dans la plupart des cas, ça va se retourner contre les. Très souvent d'ailleurs, c'est les personnels qui portent plainte contre les détenus pour la violence pour se couvrir. Donc In fine, ça va être du parole contre parole, et la parole d'un détenu contre la parole d'un surveillant, malheureusement, et ben, elle se retourne souvent contre le détenu. Donc voilà, c'est l'ensemble de ce système qu'on pointe dans notre rapport, et puis les défaillances de tous, en fait, à tous les niveaux de l'administration, des judiciaires, mais aussi des organes de contrôle qui sont censés d'inspection qui sont censés inquiéter et dénoncer ces violences et qui voilà qui parce que il y a ce système, ben ces violences continuent à se perpétuer. Donc on a produit ce rapport qui a été assez médiatisé. À la suite de ce rapport, on a reçu beaucoup de témoignages de personnes détenues qui nous disent merci, de témoignages de gens de l'administration pénitentiaire qui ne veulent plus se taire aussi. Donc pour nous, c'est un signe d'encouragement extrêmement important. En revanche, c'est silence radio du côté du ministère de la Justice. La seule information la seule réponse qu'on ait eue de la part de la ministre de la Garde des Sceaux, c'est que les violences, quand elles sont commises, déjà elles sont minoritaires, mais elles sont systématiquement sanctionnées, ce qui n'est évidemment pas le cas.
Mais c'est une bonne blague. Oui, effectivement, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Il y a aussi un autre sujet, mais je ne sais pas si comment vous le traitez, c'est ce qui m'intéresse moi, c'est celui de la santé en prison. Alors, à mon avis, hein, quand on rentre en prison, si on est en bonne santé, on devient malade, et si on est malade, on en crève pratiquement. Et quelle est la bataille qu'on peut mener? Moi, j'ai un cas précis, quelqu'un que je connais, Ivan Fernandez Iladi, qui est à Neuilly-Mezan, qui a atteint une sclérose en plaques depuis des années, qui est en train de crever en prison, et à qui on refuse de sortir pour se faire soigner parce que c'est impossible de se faire soigner en prison. Mais eux, ils maintiennent, y compris des médecins de l'administration pénitentiaire, maintiennent l'argument que si, finalement, ils peuvent être soignés. Qu'est-ce que tu penses de cette situation ?
Il y a plein de batailles à mener, effectivement, et souvent elles sont compliquées à mener parce qu'il y a la bataille de l'accès aux soins. Effectivement, en principe, une personne, le soin devrait être la même qualité à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais dans la pratique, c'est évidemment pas le cas. Et le problème, c'est aussi que des fois, on va prétexter le fait que les soins sont existants pour ne pas permettre à une personne d'aller se soigner à l'extérieur. Donc effectivement, il y a un double combat à mener pour que l'accès aux soins ne vienne pas justifier qu'on maintienne une personne dans une situation dégradante. Et il y a un autre combat à mener sur la question des soins, c'est la question des soins psychiques et surtout l'enfermement des personnes atteintes de troubles psychiques en détention. C'est un énorme problème. On parlait des violences, mais c'est aussi les violences, elles viennent aussi du fait qu'on a une proportion très importante de personnes qui sont incarcérées avec des troubles psychiques, avec des problèmes psychiques. Alors déjà parce qu'on va tendance à enfermer les fous, mais aussi parce que la prison rend fou, c'est-à-dire que quand bien même on était sain d'esprit en rentrant, l'incarcération peut aggraver cette situation. Et là, il y a un vrai combat à mener, c'est-à-dire que la prison n'est pas un lieu de soins, en fait, et certainement pas un lieu de soins psychiques.
Bon, on va peut-être pas monopoliser la parole. Il y a sans doute des gens qui veulent intervenir, réagir à ce qu'on a dit jusqu'à présent, à la lecture de texte, à ce qu'a pu dire Anne de Gazin tout à l'heure. Ah, Serge.
Bien, voilà, je te passe.
Alors, Serge, je te présente. Donc, c'est quelqu'un de L'Envolée. Hein, je parlais de ton journal et de ton émission tout à l'heure. Ouais. Donc, vous faites aussi beaucoup de lectures de textes de prisonniers à l'antenne.
Bah, c'est notre cœur de fabrique, je veux dire. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur quelque chose là, parce que tout à l'heure, Cécile, tu disais que vous receviez des allégations de violence et que vous aviez un besoin d'enquêter. Et je pense que c'est tout peut-être la différence qu'il peut y avoir avec l'envolée et l'OIP. C'est que nous, ça nous tient à cœur de croire les prisonniers, quoi qu'ils disent. Et en fait, on va pas prendre le temps de faire une enquête ou autre, parce qu'en fait, pour nous, il y a une urgence quand on reçoit des lettres de violence ou des coups de fil ou autre et tout ça. Et je pense que voilà, c'est important. Et je pense que ça fait aussi partie en fait des défaillances. Tu parlais là des défaillances des organes de contrôle. C'est qu'il y a ce besoin de... En fait, en disant on va avoir besoin de faire une enquête directement, il y a une remise en cause. En fait, peut-être qu'il dit pas vraiment vrai. Et je pense que ça, c'est un truc, en tout cas, nous, à l'envolée, qui nous tient vraiment à cœur, c'est les prisonniers, ils ont raison. Quoi qu'il advienne, on connaît la violence de la prison, et donc vous la connaissez aussi. Mais je pense qu'en fait, on n'a pas besoin de passer par ces étapes-là. Après, le document que vous avez produit et tout ça, c'est hyper important. Ça a eu des retombées médiatiques que tu expliquais et tout ça. Mais je pense que on peut pas parler d'allégations quand on parle de violence de la part des prisonniers. On doit parler de témoignages, mais c'est un fait, c'est avéré. Les gens, ils ont aucun intérêt à mentir. Et je pense que
oui, puisque comme on disait tout à l'heure, ça peut même se retourner contre eux souvent. Souvent, ça se retourne contre eux.
Enfin, c'était juste là-dessus que je voulais remonter. Et puis après, derrière, sur tout ce qui est santé. Demain à l'émission, il y aura Clément qui devait passer aujourd'hui et tout ça, et qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, et qui, pareil, était atteint du VIH. Et à l'intérieur, on a refusé de lui donner son traitement dans la première semaine d'incarcération, où en fait on l'a pas cru. Donc c'est toujours la même chose en fait. La parole des prisonniers, on la croit pas, on l'entend pas. C'est pas une vraie parole quoi. Voilà, et on l'a pas cru.
Pour la croire.
Oui, c'est ça. Mais donc les médecins de la prison, les surveillants.
C'est quelque chose qui m'a frappé. Et ça me choque profondément. C'est-à-dire que bon, les matons, on sait ce que c'est. C'est malheureusement il y en a effectivement quelques-uns qui sortent du lot et qui sont humains, mais malheureusement il y en a beaucoup qui ne le sont pas, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils font ça d'ailleurs. Mais moi, ce qui me choque profondément, c'est justement le rôle que jouent beaucoup de médecins et qui finalement ils entretiennent ce système-là. Et ils empêchent, j'ai parlé d'Ibon, mais il y en a beaucoup d'autres, il y en a énormément, qui ne sont pas soignés convenablement à cause des médecins. Comment ça se fait, ça?
Je ne sais pas comment vous l'interprétez, mais après, depuis les années 90, c'est plus la médecine pénitentiaire. Avant, les médecins faisaient partie de l'administration pénitentiaire. Ouais. Depuis, Véronique Vasseur, qui était médecin-chef de la santé, on a... donc elle avait... elle fait un rapport à ce moment-là, un bouquin en disant... qui dénonçait une situation.
Une fois qu'il est sorti.
Il y a quelques années, elle a réécrit un bouquin avec Gabi Moesca, l'ancien président de l'OIP, pour dire qu'en fait la situation n'avait pas changé. Je crois que le bouquin est sorti 20 ans, 25 ans après.
C'est ça.
Mais oui, clairement. Enfin, nous, les témoignages, et j'imagine que vous aussi à l'OIP, les témoignages que vous avez, c'est des médecins complices en fait. On a eu pas mal d'émissions, on a parlé des médicaments à l'intérieur, où en fait le médicament aussi est utilisé afin de calmer les tensions qu'il peut y avoir, comme on laisse le shit circuler, parce qu'en fait, et donc tous ces médecins en fait ils sont complices du fonctionnement de ces prisons et ils y participent quoi. Clément, il n'a pas eu son traitement, donc il s'est retrouvé avec une charge virale positive, alors que ça faisait plusieurs années et il raconte aussi qu'il s'est retrouvé allé chez le dentiste, il a demandé un détartrage, et ils lui ont dit non, tu dois être emprisonné pendant 3 ans. À partir de là, tu as le droit. Et voilà, mais oui, moi je pense que les médecins sont assez complices, mais après...
Ben, là-dessus, je trouve que ce que disait Anne de Galzin dans le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure est très intéressant. Elle disait l'ambiguïté de sa position en tant qu'intervenante en détention et sa peur, à force de travailler dedans, de faire partie du système.
Et voilà.
Et je pense qu'effectivement, c'est le cas pour beaucoup de gens qui travaillent ou interviennent en prison. Et pour les médecins, c'est qu'à à un moment, il y a une banalisation, en fait, de ce qu'on voit et pas assez de recul pour remettre en question et se dire que ça c'est juste pas normal ce qui se passe. Juste pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur les allégations qui devraient pas être mises en question, ça c'est vrai que c'est une éthique de l'OIP depuis sa création. L'OIP a été créé par des journalistes et il y a vraiment cette volonté de faire presque un travail. On rentre pas en prison, donc on fait sortir l'information. Et quand on fait sortir l'information, eh ben il y a des principes qui sont l'information qu'on fait sortir, on la vérifie, on fait un contradictoire aussi régulièrement avec l'administration pénitentiaire ou avec les santé pour entendre leur point de vue. Et puis on ne décide de sortir l'information qu'une fois qu'elle est vérifiée et que on ne met pas en danger nos sources, évidemment. Voilà, ça c'est quelque chose auquel on tient, effectivement. Alors j'entends complètement, c'est deux démarches qui différentes en fait, je pense, et qui sont complémentaires. Hein. Il s'agit pas de dire tant qu'on n'a pas vérifié une information, elle est suspecte. C'est nous, on veut que ne pas être mis en question sur la crédibilité des informations qu'on publie. Et il y a une masse d'informations énormément riche qu'on reçoit au quotidien à l'OIP dont on ne fait rien et ça nous frustre terriblement.
Dommage, ça
nous frustre terriblement et des fois on a l'intime conviction que l'information qu'on a est vraie, mais on la publie pas parce que on veut pas être pris en défaut sur la possibilité que la personne soit mise en danger, soit la possibilité que cette information puisse être remise en question. Et après, voilà, il n'y a pas une vérité, il y a beaucoup de vérités quand même. C'est des fois plus. Des fois, l'enquête montre que la situation était plus compliquée qu'on ne pouvait le croire à première vue.
Mais c'est vrai que là-dessus, bon, je rejoins un peu ce que disait Serge, c'est qu'on doit vérifier, effectivement, c'est contradictoire en quelque sorte, il faut que ce soit contradictoire. Hein, on sait très bien que la parole n'est pas. C'est pas amical, hein, ils sont. Voilà, donc vérifier quoi, par d'autres, avec d'autres
en,
détenus.
En fait, quand on parle de vérifier, on ne parle pas de vérifier seulement les informations qui émanent des personnes détenues, mais de toutes les. On reçoit beaucoup aussi d'informations de personnel pénitentiaire, de soignants, de proches. Ouais. Voilà, il y a beaucoup. Les proches, ils se font beaucoup aussi d'idées sur ce que peuvent vivre leurs proches en détention. Donc, entre l'idée qu'ils se font de ce que vivent leurs proches et ce que vivent vraiment leurs proches, nous, on va aller vérifier. D'accord. Ah ben, finalement, c'est pas ça. Ce qu'on vous a dit, c'est plutôt ça. On reçoit aussi des témoignages de personnel pénitentiaire qui nous disent des trucs, et puis après on se rend compte qu'il y a des règlements de compte derrière avec la direction, avec des syndicats. Donc voilà, c'est pas juste la parole du détenu qui est suspecte, c'est l'ensemble des témoignages qui nous remontent qu'on va aller détricoter en fait pour aller voir s'il y a derrière une atteinte au droit, et si elle est avérée, s'il faut la dénoncer. Enfin, on la dénonce évidemment.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres témoignages ? Non ? Pas pour l'instant ? Eh bien, on fait une petite virgule. Alors, on va écouter un garçon. Et c'était qu'est-ce que le morceau ? Ah ben, ça a été enregistré à Alain Meuson.
cerveau fatigué, un corps écartelé, des angoisses, des sanglots. Voilà tout ce qui reste aujourd'hui de ma vie. Aujourd'hui de ma vie.
Voilà, on revient donc sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 sur la FM pour une émission en direct depuis le local de D2L, notre partenaire ce soir. Donc une émission consacrée au milieu carcéral avec, on vient d'avoir un échange donc entre Serge de l'émission L'Envolée. J'en profite pour faire la pub pour leur revue parce qu'ils ne la font pas, eux. Hein. J'ai remarqué que
ouais, on est assez mauvais pour faire la pub.
Ah non, mais c'est vrai, j'ai remarqué qu'ils ont...
Mais il a vachement tourné, on n'en a plus beaucoup. Voilà. Mais donc oui, c'était le numéro 50 et on sort un numéro 51 là, en janvier, il sera disponible.
Voilà. Il y a également la revue de l'EIP, c'est dedans, dehors, c'est pareil, hein, donc vous pouvez trouver les renseignements. Ça, c'est une vieille revue, mais il y a des numéros assez récents. Sinon, vous pouvez vous demander aussi à être abonné à la lettre mensuelle de l'EIP, je crois. Voilà. Sur le site.
Puis je crois, toutes les deux revues sont gratuites pour les prisonniers et les prisonnières. Donc, si vous connaissez des gens qui sont emprisonnés ou que même des prisonniers ce soir écoutent, n'hésitez pas à écrire pour demander l'accès aux revues.
Voilà. Et d'ailleurs, j'aime bien parce qu'il y a souvent Marina Bernadou, une de mes amies, qui est libre maintenant, heureusement, après avoir été.
Pour te raconter l'histoire, on a commencé à faire le numéro, on a passé une semaine ensemble et on a appris la libération, je crois que c'était un lundi. Ouais. Voilà, on l'a appris en commençant à faire ce journal et donc on a commencé. C'est rare, les bonnes nouvelles, d'ailleurs c'est comme ça que commence le journal, mais ça nous a refilé gravement la patate pour faire ce journal quand on a appris sa libération, puisque. Elle avait mené des luttes assez importantes à Fleury il y a 2-3 ans quand il s'était fait sucrer une heure de promenade de manière complètement absurde par l'administration et donc on était sacrément heureux.
J'ai pensé tout de suite à sa mère parce que j'avais souvent sa mère au téléphone dans le cadre de mon émotion chez Aparta, donc on avait les familles donc qui appelaient et à chaque fois donc ça la maman de Marina qui disait ay cariño como te quiero. Voilà. Je vous traduis pas, vous avez compris. Voilà. Donc on reprend cette émission. Donc s'il y a à nouveau quelqu'un dans la salle veut intervenir, un témoignage, une question. Oui.
Pour rebondir
Julia Namias,
je travaille à l'OIP. Oui. Et c'était juste pour une petite précision par rapport à la position de l'Envolée et celle de l'OIP et par rapport aux témoignages qu'on peut recevoir, parce qu'on en reçoit beaucoup. Et alors, sur la parole donnée aux prisonniers, nous, on ne s'empêche pas de faire valoir cette parole, parce que tous les jours, on publie, notamment sur les réseaux sociaux, des paroles de détenus, des tranches de vie qui nous arrivent et on les publie sans vérification. En revanche, il y a des cas où, malheureusement, nous, on a choisi aussi le terrain du droit. Et pour faire valoir la situation des personnes qu'elles vivent, notamment en cas de violence, il faut investiguer. Sinon, c'est parole contre parole, et là, on gagne jamais. Parce qu'on a beau publier les témoignages, même si on les publie de manière brute, on n'obtient pas souvent grand-chose. Donc, on a aussi... pris, voilà, fait ce parti pris de, d'investiguer. Et il n'y a pas, là, ne serait-ce que la semaine dernière, alors ça a été très long, mais après 12 ans d'investigation et de longues batailles, eh ben, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a condamné la France pour justement un cas de violence pour monsieur. Je suis désolée, j'ai oublié son nom, Monsieur J, qui a été, donc la France a été condamnée pour défaut d'enquête quel est le terme, et mauvais traitement inhumain et dégradant. Alors certes, au bout de 12 ans, la bataille a été longue, mais on a obtenu gain de cause, et c'est aussi comme ça qu'on fait avancer les choses. Donc malheureusement, on le déplore, et c'est ce qu'on déplore aussi, mais parfois on aimerait que ça aille plus vite, et voilà, mais le temps d'investigation, elle a aussi ses lauriers quelque part, et voilà, donc au moins parfois les choses sont reconnues, alors parfois ça prend moins de temps, mais voilà, le temps d'investigation parfois permet aussi de faire valoir les droits, voilà.
D'accord. S'il n'y a pas d'autres interventions, je voudrais que Cécile, tu nous parles un peu de la situation de l'EIP, hein, parce qu'il y a une campagne qui a été menée, puisque pour faire court, on vous a quand même un peu coupé les vivres. Hein. Alors, le financement de l'EIP, d'abord, c'est quoi ? C'est...
Alors, le financement de l'EIP, pendant très longtemps, c'était quand même en partie, c'est-à-dire pour une grosse moitié des financements publics. Le seul financement public qu'on s'interdit, c'est les financements du ministère de la Justice pour garder notre indépendance.
Oui.
Mais on est néanmoins financé notamment sur toutes nos missions d'accès au droit, puisqu'au quotidien, on répond aux sollicitations des détenus et leurs proches sur leurs droits et comment les faire valoir. On développe aussi des ouvrages d'accès au droit comme le guide du prisonnier.
Donc, il est dans mon tiroir.
Voilà, donc pour ce type de travail, on est financé par le ministère de la Santé, par exemple, où on était financé jusque-là par tout ce qui était les dispositifs d'accès au droit et de cohésion sociale. Et puis après, les financements privés, c'est des fondations, des dons de particuliers, les ventes et cotisations de nos membres. Mais comme le faisait remarquer Serge, nos publications sont, enfin, on a un principe de gratuité pour nos publications, pour les personnes détenues et pour pas mal de nos publics finalement. Donc c'est pas une source de revenus très importante. Et on a effectivement tiré la sonnette d'alarme très récemment parce que on a connu ces dernières années, et avec un peu le coup de grâce là en 2019, une dégringolade des subventions publiques, avec une perte de 2/3 des subventions publiques qu'on recevait. Et derrière, clairement, pour nous, le choix de ne pas nous soutenir. Le choix, par exemple, de la part des régions qui nous finançaient jusqu'aux dernières élections, de ne plus nous soutenir à partir du moment où elles sont passées à droite, ou le choix de certains ministères, notamment le ministère de la Ville, qui nous finançait sur tout ce qui est politique de la ville, de décider que non, il n'y avait aucun lien entre le travail de l'OIP auprès des personnes détenues et les publics, les politiques de la ville, parce qu'on ne trouve pas, malgré ce qu'on a entendu tout à l'heure, dans les textes qui nous ont été...
Ça n'a pas très bien lien entre la politique de la ville et la question des personnes détenues, mais bon, il faut que ce soit des gens qui habitent dans la ville qui...
Non, il faut que ce soit des gens qui soient dans les quartiers défavorisés.
Ah, d'accord.
Mais il se trouve, malheureusement, qu'on a un système pénal et répressif qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière les barreaux.
Il n'y a pratiquement que des gens qui viennent de quartiers défavorisés en prison. Hein,
voilà, exactement. Ouais. Mais ça, le politique ne veut pas le voir. Mmh. Donc on a souhaité alerter à la fois parce que politiquement on pensait que c'était important, et puis parce que clairement notre existence était en jeu. Comme vous imaginez, c'est pas très facile d'aller chercher de l'argent du côté du privé sur la cause qu'on défend. Et on a reçu à la suite de cet appel un élan de générosité extrêmement important qui nous fait plaisir déjà, et qui nous montre aussi que notre rôle est reconnu et considéré comme important. Et on a reçu, en parallèle de la générosité, énormément de messages de soutien pour notre travail.
Est-ce que ce n'est pas justement l'inconvénient d'être dépendant de...
Mais bien sûr, mais
c'est pareil pour la radio, Lucien. Bon, sur FPP, on attend le FSER pour pouvoir boucler... on ne boucle même pas, on boucle la moitié de l'année avec ça. à peine. J'ai la trésorière d'ailleurs de FPP qui est là. Donc c'est vrai que c'est un boulet, quoi. C'est une gêne d'être obligé de compter là-dessus.
C'est un boulet, c'est compliqué parce que est-ce qu'on doit dépendre de financement public et en même temps est-ce que les financements publics, c'est notre argent, l'argent public.
C'est vrai.
Voilà, c'est notre argent et nous on a un contre-pouvoir qui est pour nous essentiel à la démocratie et essentiel au débat public. Alors soit on décide que l'argent public n'a pas à financer les contre-pouvoirs et n'a à financer que les opérateurs de services publics, c'est-à-dire ce que les associations font à la place de l'État et qu'elles ne devraient pas faire. Soit on décide effectivement qu'on doit trouver notre propre argent, mais sur notre cause, ben, ce n'est pas très facile.
Ouais. Voilà. C'est-à-dire que c'est un peu à leur bon vouloir, et comme tu le dis, il suffit qu'une région elle change parce que finalement, le Parti Socialiste, donc il est plus enclin à verser des subventions que la droite macronienne ou...
Je pense que la droite macronienne assume clairement de ne pas financer les associations qui critiquent les politiques publiques.
Merci.
C'est un contexte global pour toutes les associations.
Ouais. Enfin,
et puis ça vient depuis la circulaire Fillon. En vrai, c'est depuis un sacré bout de temps où en fait... D'ailleurs, pour la première fois, comment il s'appelle, un des ministres a dit ça nous coûterait 200 000 euros, 200 millions d'avoir les Restos du Cœur. Donc c'est très bien qu'il y ait des petits bénévoles qui fassent ça. Je pense que c'est une vraie évolution globale. Ça touche l'OIP, ça touche le Génépi, voilà. Mais en vrai, ça touche tout le monde associatif de manière générale. Enfin, il n'y a pas des cas spécifiques, je pense, de la prison, malheureusement. Voilà.
Lucien me dit qu'on est arrivé au bout. Donc, on va se quitter avec encore une chanson enregistrée en prison. Même pas, on n'a pas le droit un petit peu de... Oh là. Eh bien, au revoir. C'est vrai qu'il est brutal, hein. Il est brutal, Lucien. Voilà. Allez, salut à tous.